RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les 314 millions de kilomètres carrés des forêts du bassin du Congo s'étalent sur 6 pays. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle et ce sont aujourd'hui les seules au monde à capter plus de CO2 qu'elles n'en relâchent. Mais l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est pour des millions de familles la seule façon de se nourrir et d'avoir quelques revenus, fait des ravages. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. La coupe du bois pour préparer les champs, élever les animaux ou creuser des mines artisanales est massive. Dans ce pays de 90 millions d'habitants où à peine 10% de la population a accès à l'électricité, la fabrication du makala, le charbon de bois, participe aussi grandement à la déforestation. Pourtant, il existe des solutions alternatives, encore faut-il les connaître et y avoir accès. Le journaliste français Guy Lagache s'est rendu dans la région du Kivu. Il a enquêté sur le makala pour sa série documentaire Terre d'urgence qui va à la rencontre de ceux qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Il sera notre invité dans un instant. Mais tout d'abord, retour sur le prix Challenge Up Afrique qui récompense chaque année des solutions numériques innovantes créées par des Africains francophones. Cette année, le thème justement, c'était l'énergie. Le palmarès a été dévoilé hier.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On connaît enfin le lauréat du 8e Challenge Up Afrique, un concours RFI France 24 pour soutenir des startups qui développent des applications numériques innovantes au service d'une problématique africaine. Cette année, la thématique était le numérique au service de l'énergie verte. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Le nom du lauréat a été dévoilé hier à l'Institut français d'Abidjan au cours d'une émission spéciale de C'est pas du vent d'ailleurs. C'était en public et c'est vous qui animiez cette émission à ma place, Igor. Une émission qui sera diffusée le 25 avril prochain. Comment s'est passée cette journée, Igor ?
Très bien, très convivial en plus de l'enregistrement de l'émission. Il y avait une masterclass avec des interventions sur les innovations dans la transition énergétique en Afrique ou encore sur les enjeux de la digitalisation en Afrique de l'Ouest. Donc une bonne journée instructive et dense.
Et le lauréat alors ?
Eh bien, le lauréat faisait partie d'une liste de plus de 700 participants qui a ensuite été réduite à 10 et enfin à 3. 3 finalistes, 3 projets, tous basés sur le solaire. Vous savez, Anne-Cécile, que malgré un énorme potentiel, eh bien, l'éolien et le solaire ne représentent que 4% de la production d'électricité sur le continent. 80% de l'énergie produite en Afrique vient des énergies fossiles. Il y avait donc parmi les participants Jonathan Zungrana du Burkina Faso et son projet Kingwa. Kingwa, ça signifie vert en langue morée. Kingwa, c'est la première station de charge électrique à énergie solaire au Burkina. Vous le savez, hein, au Burkina, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien, les gens rechargent leur téléphone dans des petites boutiques qui fonctionnent avec des groupes électrogènes, donc de l'essence, des énergies polluantes. Là, on pourrait donc le faire avec de l'énergie propre. Deuxième finaliste, Mounir Jamaï du Maroc, qui a développé, lui, NR Counter. C'est un réseau électrique intelligent pour optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie. Objectif, eh bien, rendre l'énergie accessible en milieu rural africain. L'avenir, c'est les petites unités d'énergie propre, nous murmurons ici assez régulièrement. Et puis enfin, le troisième finaliste, eh bien, c'est Divin Kwebatuka du Congo-Brazzaville. Il a développé la Greenbox, une application de gestion agricole. En fait, c'est une chaîne de froid verte pour aider à réduire les pertes après récolte. Vous savez qu'en Afrique subsaharienne, eh bien, les petits agriculteurs perdent jusqu'à 40% de leur récolte avant que ces produits ne parviennent aux consommateurs. C'est donc un gros problème que tente de résoudre la Greenbox. Et le lauréat, eh bien, c'est justement Divin Kwebatuka.
Je suis ému. Vous savez que le problème était personnel. On a fait notre challenge avec mon équipe, une mission de réduire les pertes post-récolte au Congo et à travers l'Afrique. Et je pense que nous aurons notre autorité au niveau national et à l'international.
Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs.
Exactement.
Il y avait aussi un défi personnel à relever.
Exactement, c'est toujours un défi personnel, voir à toutefois les petits exploitants agricoles marginalisés perdre encore pratiquement la moitié de leur production. Et j'ai fait un défi personnel après les études supérieures. Je suis ingénieur en énergie renouvelable, ce qui m'a permis avec mon équipe d'installer une chambre froide simple qui permet tout simplement de réduire les pertes post-récolte à pratiquement 90%.
Donc en fait, vous avez fait une première expérience qui s'est avérée concluante, d'où cette volonté justement de le développer à une plus grande échelle.
Exactement, il y a une forte demande. Au Congo, pratiquement, nous avons 500 000 petits exploitants agricoles. Et vous savez, l'agriculture, le Congo, c'est un pays pétrolier, l'agriculture n'était pas prise au sérieux au Congo. Et avec vraiment notre solution, ça permet vraiment aux agriculteurs qui perdaient de l'argent sur toute la chaîne de conserver leur argent et d'augmenter leurs revenus. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse petit à petit, les bénéfices que nous récoltons, réinvestir. Et c'est ce que le prix-là va nous permettre tout simplement de continuer notre processus d'échelle.
Justement, qu'est-ce que ça change d'être lauréat d'un tel prix? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire à l'avenir?
Premièrement, nous aurons vraiment la reconnaissance au niveau national. Vous savez, on développe un projet dans une zone rurale. Nationalement, on ne nous connaît pratiquement pas. Mais je pense qu'à travers ce prix-là, ça nous permettra d'avoir une notoriété nationale et continentale, voire mondiale. Et je pense que les partenaires, les financiers, les organisations vont nous prendre au sérieux et vont nous accompagner de l'avenir.
C'est pour asseoir votre crédibilité finalement et vous donner un petit peu de visibilité.
Exactement. Et il y a quand même de l'argent que nous avons gagné. Ça nous permet d'installer encore une autre chambre froide et encore accélérer notre processus de numérisation de notre solution. On a un plan de développement qui est simple. Nous avons attaqué une région agricole au Congo et actuellement, il y a beaucoup de départements. Nous avons 12 départements au Congo. On veut s'étendre dans pratiquement tous les départements du Congo, installer pratiquement plus de 26 green box au Congo et s'étendre à travers les pays voisins qui nous contactent déjà. La RDC, c'est pratiquement 10 millions de petits exploitants agricoles. Dans l'avenir, nous allons installer plus de 2000 green box là-bas. Il y a aussi le Cameroun qui est un pays qui est très fort au niveau agricole et nous voulons s'étendre dans d'abord l'Afrique centrale et pourquoi pas dans l'Afrique de l'Est.
Le challenge APAFRIC, c'est un long processus finalement. Vous vous rappelez au début quand vous vous êtes dit « je vais m'inscrire », dans quel état d'esprit vous étiez, puis aujourd'hui le chemin parcouru?
C'est compliqué, vous savez. J'étais parmi les premiers à postuler parce que c'est un challenge que je suivais avant. Et cette année, Dieu a fait grâce dès que le challenge était lancé. On était le premier dès que j'ai vu. Comme déjà on avait pratiquement toutes les informations qu'on demandait, j'ai postulé et à pratiquement de 800-700 candidatures, on est passé à 10 et je croyais toujours par la grâce de Dieu on peut le faire cette année. Et de 10, on est passé à 3 et aujourd'hui c'était le grand jour. Je remercie Dieu.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Green Box maintenant?
Devenir vraiment le pionnier du chêne froid durable à travers le monde.
Alors Anne-Cécile, le jury a apprécié l'impact social de la Green Box, la réduction du gaspillage alimentaire et de la malnutrition, mais pas uniquement. Philippe Miquel de la société CFAO Infrastructure, qui développe des énergies vertes, était membre du jury et Stéphane Madou, lui, est de la division énergie de l'AFD, l'Agence française de développement.
Sa solution répond à un vrai problème que rencontrent les agriculteurs, que ce soit au Congo, Brazzaville ou ailleurs, qui est de sauvegarder une culture plus de 2 jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui nous a convaincus, c'est le fait qu'il a déjà 4 ou 5 green box en opération, qu'il en a 25 en projet, qu'il est prêt à démarrer. Et le troisième élément, c'est le fait que ce projet était probablement celui pour lequel le prix allait booster le plus la mise à l'échelle, et dans l'innovation, la mise à l'échelle, c'est un élément critique. Pour que ça soit une innovation et que ça soit une innovation qui marche, il faut que ça réponde à un vrai problème. Et c'est le cas de la Green Box. Il n'y a pas de solution de froid communautaire de cette nature-là pour les agriculteurs éloignés du réseau dans les zones agricoles d'Afrique. 1. 2. Il faut qu'il y ait un vrai marché et c'est encore une fois une solution qui s'applique au Congo, Brazzaville, mais qui peut s'appliquer à tous les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest et même d'Afrique de l'Est. Et 3. Il faut un plan d'affaires, c'est-à-dire qu'il faut que la solution elle soit vivable économiquement pour les agriculteurs et pour ceux qui vont s'en servir. Et il a mis en place une solution qui s'appelle de Pay As You Go, qui rend la solution par construction accessible, puisque c'est encore une fois une solution communautaire où chacun va contribuer à l'économie du projet. Donc ces trois éléments clés d'une innovation qui marche, ils les réunissaient.
Et le fait que ça soit duplicable dans d'autres secteurs, on parlait de la santé, les vaccins, la chaîne du froid, c'est aussi essentiel. Ça a joué aussi selon vous ou vous étiez vraiment dans un domaine, dans le domaine agricole?
C'est ce qu'il a mis en avant, mais clairement, il a mis aussi en avant dans son dossier le fait que son système solaire pouvait connecter et recharger des véhicules, des mobylettes électriques. Mais ça peut effectivement s'adapter au domaine de la santé. Et c'est un vrai sujet également. Sauvegarder, garder des vaccins en zone rurale, c'est critique, quoi.
Dans le domaine de l'énergie, ce projet a vraiment une vertu, ou en tout cas est très important, dans la mesure où il permet d'utiliser les ressources disponibles, les ressources énergétiques disponibles sur place pour résoudre un problème des populations. Et donc c'est vraiment ce cercle vertueux-là que nous promouvons dans l'ensemble de nos interventions en Afrique. Que les populations elles-mêmes puissent générer des solutions en utilisant les sources les plus compatibles possibles avec le climat pour pouvoir résoudre leurs problèmes qu'elles rencontrent. C'est pour nous l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. C'est un peu la victoire du bon sens, c'est un peu la victoire de la simplicité. En effet, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir partout en Afrique. Ce n'est pas uniquement pour la conservation des produits localement, ça permet aussi de pouvoir faire du transport, ça permet vraiment de pouvoir avoir une chaîne de froid sécurisée en utilisant l'énergie solaire, et pour nous c'est vraiment idéal.
Merci Igor Strauss.
Merci à vous Anne-Cécile et bonne journée.
Germano-ghanéen, et oui ça existe, il s'appelle Djemba Groove. Leur titre Dabia fait partie de la playlist de RFI que vous pouvez retrouver sur vos plateformes préférées.
RFI. Détruire une espèce, c'est bien pire que de brûler tous les Picasso, c'est vraiment faire disparaître un bijou qui a été façonné par le temps.
Pour nous écrire,
c'estpasduvent@rfi.fr.
Bonjour Guy Lagache.
Bonjour.
Vous êtes un journaliste de la télévision française et vous venez de démarrer, je le disais, une série documentaire intitulée Terre d'urgence, dont le troisième épisode, Les combattants du désert, a été diffusé sur Ushuaïa TV le 24 février dernier. Le principe de cette série est d'aller à la rencontre de ceux qui subissent de plein fouet le changement climatique. C'est votre envie du moment?
Oui, parce que depuis maintenant un certain nombre d'années... En Occident, on commence à ressentir les effets du climat, là où des communautés d'un bout à l'autre du globe sont déjà dans cette problématique-là depuis fort longtemps. Et lorsque Christophe Sommet, patron de Ushuaïa TV, et mon producteur Guillaume Roy m'ont proposé des documentaires à Ushuaïa TV, je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment, en gros, ces communautés en première ligne du changement climatique, au bord d'une certaine façon d'un précipice, eh bien, s'adapte-t-elle à cette nouvelle réalité, en fait, un milieu hostile qui s'impose à eux et qui, d'une certaine façon, est en train de s'imposer à nous tous sur la Terre. Et de ce fait, de comprendre comment on mène sa vie quotidienne dans un environnement qui change sous l'effet du climat, quelles solutions on trouve pour continuer à vivre malgré tout. C'était ça, moi, qui m'intéressait.
Oui, parce que vous avez traité de nombreux sujets durant votre carrière. Pourquoi est-ce que cette série, justement, s'impose maintenant pour vous?
Précisément parce que je crois que, d'abord, les questions que nous nous posons aujourd'hui sont de plus en plus fortes, ici, en France, en Occident, par rapport au climat. On le voit dans l'actualité, les inondations, les canicules pendant l'été. On voit bien que cette problématique climatique s'est invitée dans notre quotidien de façon majeure. Donc le public, qu'il soit lecteur ou téléspectateur, est beaucoup plus sensible à ces questions qu'il l'était il y a quelques années, lorsque, par exemple, en 2009-2010, j'avais créé Capital Terre, qui à l'époque sur M6, qui était un dérivé de l'émission Capital dont je m'occupais, avait marqué les esprits, mais au fond, c'était bien avant que cette question du climat devienne existentielle pour nous, ici, en Occident. Donc, je pense qu'il y a une appétence à savoir, à avoir de la connaissance, de la compréhension pour savoir comment éventuellement s'adapter avant que nous trouvions des solutions à un monde économique qui va évidemment devoir... se transformer.
Et le plus vite possible, on l'appelle souvent de nos voeux dans cette émission. Alors le dernier épisode s'appelle « Les combattants du désert ». Vous l'avez tourné en Mauritanie, où le Sahara ne cesse de s'étendre. On écoute un extrait.
Nous sommes au cœur de la Mauritanie, dans le sud du Sahara. Ce n'est pas un train comme les autres. Dans ces citernes grises se cache le trésor le plus précieux qui soit. De l'eau, près de 500 000 litres. Un bien rare et surtout précieux pour les populations de cette région. Les citernes sont pleines, le départ est imminent. Sa destination, Benamera, à 150 km d'ici. On dit de lui qu'il est le plus grand train du monde. 150 wagons, 2,5 km de convoi. Après trois quarts d'heure de voyage, sans croiser âme qui vive, soudain, quelques silhouettes à l'horizon. Une dizaine de nomades attendent le passage du train.
Alors c'est une série très incarnée, hein. On vous suit dans chaque étape du reportage, c'est pour ça qu'on entend aussi votre voix. Qu'est-ce que vous avez découvert durant ce reportage en Mauritanie?
C'est la bataille de l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez la désertification qui devient de plus en plus forte, ça veut dire que vous avez une raréfaction de l'accès à l'eau potable pour les populations de la Mauritanie, qui est un des pays de l'Afrique saharienne qui aujourd'hui subit de plein fouet cette manifestation environnementale qui est liée à un impact du climat. Et là, la bataille de l'eau, c'est la bataille pour avoir de l'eau. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est l'eau. Or, c'est un enjeu primaire, c'est un enjeu essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement de constater en gros, comment le désert avance comme une forme de tsunami rampante et presque qui ne s'arrête jamais.
Oui, le Sahara s'est agrandi de 10% en un siècle.
Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne? Le sable qui envahit les maisons, qui ensevelit littéralement des villes, comme par exemple Chinguetti, qui est la 7e ville de l'islam, qui a déjà été construite 3 fois, à 3 reprises en 1000 ans, précisément à cause du sable qui ne cesse, comment dirais-je, de prendre de la place sur la cité. Et puis, il y a de l'autre côté des solutions qui sont mises en place pour y faire face. Alors, vous avez par endroits l'État, dans des endroits notamment stratégiques, à la frontière au nord, où le train apporte de l'eau une fois par semaine aux populations
comme
locales.
Comme on l'entendait dans l'extrait.
Comme on l'entendait là à l'instant dans l'extrait, avec les nomades qui viennent se ravitailler une fois par semaine, avec des énormes réservoirs en caoutchouc pour avoir des réserves d'eau pendant une semaine. Et puis, vous avez par ailleurs des populations qui décident, par le biais du système D, à s'éduquer pour trouver par eux-mêmes les moyens de faire naître de l'eau. Et quand l'eau n'est pas dans les sous-sols, il faut aller le chercher dans le ciel, parce que vous avez quand même des saisons des pluies en Mauritanie. Et donc là, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le génie humain, où il y a des histoires formidables à raconter. En tout cas, il y en a une d'entre elles qui m'a vraiment saisi. Ce sont des gens, des fermiers, dans la vallée de l'Adrar, une vallée où on produit des dattes qui sont soi-disant parmi les meilleures du monde, d'ailleurs, mais où il y a un énorme problème, c'est que vous avez 70% de la production de dattes qui a été décimée en l'espace de 5 ans, précisément parce que l'eau est manquante dans les nappes phréatiques. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement puisé d'eau par des forages, par des puits, qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, en l'absence de l'État dans cet endroit-là, ils se sont dit, écoutez, on va prendre des initiatives que normalement un État devrait prendre, mais vu que l'État n'est pas là, nous allons le faire nous-mêmes. Et ils se sont organisés, ces fermiers, pour construire un barrage. Un barrage, normalement, c'est une œuvre qui nécessite des compétences d'ingénierie très sophistiquées. Donc, quand vous n'avez pas été pour la plupart à l'école, comment faire ? Eh bien là, vous voyez dans ce film l'histoire folle de gens qui décident d'aller sur Internet, qui vont apprendre comment on fait des barrages, comment on faisait des barrages dans l'Antiquité, et décident de reproduire un barrage antique à l'identique de ceux que les Romains construisaient au sud de la Tunisie pour aller chercher de l'eau qui viendrait du ciel et ainsi stocker de l'eau qui alimenterait derrière tout le bassin de la région des plantations de dattes. Et c'est à la fois captivant de voir, en gros, la façon avec laquelle les gens peuvent se mobiliser est très émouvant, parce que ces gens-là, ils mettent toute leur force et ils font ça pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, cette série est intéressante parce qu'elle vous apprend sur ce qui se passe d'un bout à l'autre de la planète comme étant des éléments d'information émanant de ceux qui sont aux avant-postes de ce que nous connaissons, et en même temps qui est inspirant parce que vous avez des histoires humaines extraordinaires avec des gens qui cherchent à trouver des solutions de façon locale.
Une capacité d'adaptation qui, malgré tout, donne un peu d'espoir. Alors, vous avez aussi réalisé un documentaire en Inde, dans le golfe du Bengale. Alors, on en parle régulièrement dans l'actualité. Les cyclones, les ouragans sont de plus en plus violents. Nous parlons souvent, par exemple, dans cette émission du Bangladesh, où les eaux montent et les côtes disparaissent, les maisons se retrouvent dans l'eau. Et vous êtes allé donc dans le golfe du Bengale, qui est aussi un endroit particulièrement menacé par ces phénomènes.
Oui, absolument. C'est à la frontière du Bangladesh et de l'Inde, dans la plus grande mangrove de la planète, où vous avez en fait la montée des océans qui vient empiéter, grignoter sur les terres arables. Donc en gros, ça bouleverse un écosystème total, puisque les terres deviennent engorgées de sel, et donc ça modifie à la fois la façon de vivre. Vous avez beaucoup d'îles, par exemple, parce qu'on est dans le delta du Gange, et donc vous avez littéralement des terres qui disparaissent, des îles qui disparaissent, où habitaient des milliers d'Indiens. Et donc toute la question, c'est comment ça force l'exode climatique ? Comment ça pousse des gens qui cultivaient depuis des générations entières du riz, soit à trouver des variétés de riz qui puissent être résistantes, par exemple à l'invasion des terres par de l'eau salée, sachant que le riz, a priori, ne résiste pas au sel, soit littéralement de changer des cultures. Quand vous avez des cultures de riz, bah, comment je vais transformer en tant que paysan des cultures de riz en une culture de poisson et ainsi m'adapter à une réalité qui s'impose à moi. Là encore, de voir cette espèce de résilience humaine s'exercer avec un pragmatisme et aussi une forme d'organisation bien réglée, quelque chose d'assez impressionnant.
Alors vous avez aussi réalisé un documentaire en République démocratique du Congo sur le marché du charbon de bois. Nous en parlons dans un instant. Mais d'abord, je vous propose une introduction de ce sujet en musique avec le Congolais Balodji et la Capverdienne Mera Andrade. Dans C'est pas du vent, évidemment.
Je suis pas susceptible, je suis hypersensible. Mes émotions sont des messagères, femme noire mais pas en colère. C'est pas mes rivières pourpres qui noient mon amour propre. C'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui raturent. La voix dans les aigus fragilise, lâcher prise qu'on hystérise. Interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe.
Cansa de ser forte, hoje não cresço ser mi. E todo dia tá assim, minha na boca minado. Sem ter é com sorte pra manter em costa riso. Cusé que boja na minha, uma minha são tormento.
C'est pas des stories, mais des notes de mon journal extime. Mon intime pour les autres, mis en scène comme en vitrine. Est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, les femmes multitask, vues sous un autre angle, condamnées à être des femmes puissantes, héroïnes, érigées en icônes, mais on peut être résiliente, sans avoir des valeurs de bonhomme, image d'Amazon et de guerrière, l'empathie est un mauvais critère. On te drill, 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 drill. Pas de tache de sang, pas de tache d'huile.
Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi.
Le Congolais Balodji et la Capverdienne Mera Andrade et leur titre Matrone dans C'est pas du vent sur RFI, un titre que vous pouvez retrouver sur la playlist de RFI, disponible sur toutes les plateformes.
RFI.
Le gris du métal, le jaune de l'or, le sointant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent, la peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'ils croisent sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Et nous sommes en compagnie du journaliste Guy Lagache aujourd'hui qui effectue des reportages à travers le monde pour aller au plus près de ceux qui vivent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Votre série s'appelle Terre d'urgence. Vous êtes allé dans l'est de la République démocratique du Congo enquêter sur la déforestation. Vous en avez aussi tiré un livre de ce reportage qui s'appelle Le cri de la forêt, récit au cœur de la menace climatique. Ce que j'ai vu dans la forêt primaire nous concerne tous, c'est publié aux éditions du Rocher. Ce n'est pas évident toujours d'avoir conscience que ce qui se passe dans la forêt primaire là-bas, au Congo, nous concerne tous, par exemple ici en France. Comment on fait le pont ?
On s'en rend compte quand on y va, en fait. En fait, il faut se dire que Vous avez d'un côté le premier poumon, c'est évidemment l'Amazonie. Le deuxième, c'est le bassin du Congo. Si le Congo disparaît, vous avez un impact direct sur le climat, notre climat, les températures et les aléas qui vont avec. Donc, c'est là où ça nous concerne. Et cette forêt, celle du Congo, est évidemment menacée. Chaque minute, vous avez un arbre qui tombe. 500 000 d'hectares chaque année disparaissent, soit la moitié de l'Île-de-France. Donc, c'est un drame.
Parce que la forêt, il faut le rappeler, absorbe le carbone.
Oui, séquestre le carbone et relâche de l'oxygène. Donc,
quand on coupe un arbre, qu'on le brûle, ce carbone est relâché à nouveau et donc participe à l'effet de serre.
Vous ne séquestrez plus le carbone, donc le carbone, lui, est dans l'atmosphère, donc contribue à réchauffer le climat. Or, c'est ça qui nous menace. Et au rythme où les choses vont, certains experts prédisent que à la fin du siècle, vous pourriez voir cette forêt disparaître. Donc, c'est là où, par rapport à la question que vous posiez, ça nous concerne de façon directe. Alors, maintenant, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller raconter cette histoire dont on ne parle jamais, ou très rarement, à part sur votre antenne. Mais, si vous voulez, dans les médias occidentaux, la forêt du Congo n'est pas, comment dirais-je, aussi médiatisée que
l'Amazonie.
Que l'Amazonie, par exemple. Et pour autant, c'est extrêmement important.
Et vous êtes allé enquêter donc, sur la déforestation là-bas. Vous avez décidé de vous focaliser sur le marché du makala, le charbon de bois, une énergie essentielle puisque seulement 10% des 90 millions d'habitants de la République démocratique du Congo ont accès à l'énergie. Donc il faut bien cuire son poisson, braiser son poisson avec une énergie et puis aussi avoir de l'eau chaude. Et alors nous vous suivons à Goma où vous êtes allé à la rencontre de ceux qui fabriquent justement ce charbon que l'on appelle là-bas le makala.
Ici, il y a quelques jours, s'élevait une forêt majestueuse. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques souches. Le caïd de la bande, Justin, a accepté de nous parler. Sous sa surveillance, près de 130 coupeurs de bois.
Justin, avant c'était une forêt ici, détruite volontairement?
Effectivement, ce sont des arbres qu'on a coupés, mais ce n'étaient pas des gros arbres. C'était des arbres moyens. Cet endroit, il n'était pas exploité. Il n'y avait pas du tout d'agriculture.
Parce que pour le visiteur qui vient, ça fait bizarre de marcher sur un espace où il n'y a plus de vie, en fait.
Effectivement, comme vous le voyez, c'est vide. Il n'y a plus rien.
Les arbres sont abattus, débités en bûches, entassés en monticules, puis recouverts de terre pour former ces énormes fours. Rien qu'aujourd'hui, l'équipe de Justin s'active sur une dizaine de fours.
Là, nous sommes juste au début. On vient d'introduire le feu. Ça, c'est la porte.
Et ça représente combien d'arbres?
C'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup.
Ici, avec 5 arbres par exemple, je peux avoir 20 sacs de braise.
Dans ces fours, les arbres se consument durant 5 jours. Objectif, produire du charbon de bois. Un charbon qui rapportera beaucoup d'argent.
Un four duquel sort beaucoup de fumée, c'est un four qui n'est pas bon. Ça indique que le bois brûle trop rapidement. Ce n'est pas bon pour l'étape de carbonisation. Si le four est mal installé, vous obtenez des petits morceaux de charbon. Souvent, c'est du charbon très léger.
Ouais, donc ça se vend moins cher.
Oui.
Le charbon de bois ici, on l'appelle le makala. Un bon four peut produire 10 sacs de 50 kg, soit 500 kg de makala. Valeur marchande, 2000 euros. Une somme énorme ici. Alors pour les trafiquants comme Justin, cela justifie largement de prendre certains risques.
Oui, c'est dangereux. S'il n'y a plus d'arbres, alors souvent, on va dans le parc. Si on t'attrape, on t'emprisonne. Si les rangers te chopent, ils t'emprisonnent. C'est illégal comme travail.
Mais alors, en moyenne, par mois, ça vous permet, vous, d'avoir un revenu qui tourne autour de quelle somme?
Je pense que
J'ai des travailleurs. Tu vois comment ils travaillent? En moyenne, si je peux estimer par mois, je ne gagne pas moins de 500 dollars.
Et 500 dollars, c'est 10 fois le salaire moyen en République démocratique du Congo, Guy Lagache. Ça n'a pas été facile, hein, vous le racontez aussi dans votre livre, d'obtenir cette interview.
Ben non, parce que Justin, comme la plupart des trafiquants de Makala, en gros, ils sont sous le contrôle des groupes armés. Vous ne pouvez pas comprendre, en gros, la problématique environnementale de la forêt si à un moment donné, on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe politiquement. Et en fait, on est dans une des régions les plus dangereuses d'Afrique, qui s'appelle le Kivu, qui est liée à la guerre qui a eu lieu non seulement au Congo, mais au génocide au Rwanda.
Un génocide dont nous commémorerons les 30 ans.
Quand les Hutus, qui ont donc massacré les Tutsis au Rwanda, sont partis se réfugier quand les Tutsis de Paul Kagame, qui aujourd'hui est au pouvoir, a repris le pouvoir. Les Hutus sont massivement partis de l'autre côté de la frontière, où ça, là où je me trouvais, donc au Kivu, à Goma et dans tout le nord Kivu. Le Kivu est une des régions les plus pauvres et à la fois l'une des plus riches du monde. Plus riche par les sous-sols, par les ressources naturelles. Et donc, si vous voulez, les Hutus se sont formés en milices, en groupes armés, qui s'appellent notamment les FDLR. Et Justin, qu'on vient d'entendre, eh bien, si vous voulez, il est affilié aux FDLR. C'est-à-dire que les FDLR, comme les M23 de l'autre côté de la route, toujours dans ce Nord Kivu, contrôlent, en gros, la mainmise en fait, sur les ressources naturelles, dont le bois qui fait l'objet d'un commerce de près de 40 millions de dollars par an. Donc, si vous voulez, pour pouvoir aller parler avec ces trafiquants, il faut aller parler avec ces groupes terroristes. Et évidemment, ce que je raconte dans mon bouquin, c'est comment vous devez vous introduire auprès de ces groupes armés, parler, palabrer des heures avec eux.
Boire de l'alcool un peu violent.
Boire de l'alcool très violent
à 8h du matin.
À 8h du matin, à la place du petit déjeuner, etc. Mais c'est en même temps très intéressant parce que vous comprenez la complexité dans laquelle se trouve aussi ce pays. C'est-à-dire que c'est une chose de dire c'est terrible ce qui se passe, c'est autre chose de comprendre les raisons pour lesquelles ça se passe ainsi. Et on est dans un état très complexe parce que vous avez d'un côté cette réalité, d'une certaine façon, cette violence aiguë, ce monde irréel presque, et en même temps un état complètement exsangue avec une armée qui tient pas du tout la région, une police qui parfois est corrompue, c'est ce que je raconte dans mon livre, et qui fait que bon an mal an, vous avez cette espèce d'anarchie globale et cet environnement qui fait l'objet d'une prédation absolue.
Et vous avez une cohabitation des urgences, j'ai envie de dire, puisque vous êtes allé aussi rencontrer les Batois, qui sont des peuples qui dépendent fortement des forêts pour leur culture, pour leur pharmacopée aussi. Et là, vous avez visité la forêt avec un Batois qui vous a guidé et qui vous a montré que finalement, leur pharmacopée est en train de disparaître à la vitesse de la déforestation.
Ben oui, parce que c'est un peuple qui vit de et par la forêt. Or, ils ont été, comme beaucoup de pygmées, complètement dépourvus de leur habitat naturel parce que cette forêt disparaît. Donc, que ce soit pour aller chasser, que ce soit pour aller cueillir, que ce soit pour avoir des médicaments pour se soigner, cette forêt devient de plus en plus loin de chez eux. Donc, c'est une lutte de tous les instants pour aller trouver l'équivalent d'une aspirine qui se trouve sur une écorce d'un arbre, pour trouver des plantes qui vont vous soigner, vos maux de dents. Mais à partir du moment où cette forêt se réduit comme peau de chagrin, les sources de ce qui vous permet de rester en bonne santé elles-mêmes se réduisent. Et donc, c'est leur survie qui est en jeu. Et effectivement, en vivant quelques jours avec les Batois, ça m'a permis de mesurer de l'intérieur, en étant avec eux, ce que signifiait en fait ce besoin absolu que représente la forêt dans leur vie et leur écosystème.
Et nous en avons souvent parlé dans cette émission. Il existe une alternative au charbon de bois, c'est le charbon écologique, comme vous avez pu le constater, vous aussi, avec les briquettes du Kivu.
Sur le marché de Bukavu, on vend des légumes de toute la région. Des légumes qui, pendant le transport, ont été protégés dans de la paille. Ces ouvriers en gilet jaune la récupère par sac entier. Cette paille destinée à la poubelle, l'équipe de Mouroula Zigabé la récupère avec l'autorisation de la municipalité, car il lui a trouvé une vraie utilité. Mouroula en est convaincu, ces déchets sont la solution à la déforestation. Mouroula Zigabé a 30 ans. Il a fait ses études de philosophie à l'université de Bukavu. Mais en 2018, il a créé cet atelier de fabrication de briquettes inflammables. La méthode qu'il a mise au point ressemble beaucoup à celle qu'utilisent les trafiquants de Makala. Mais ici, les fours ne sont pas en terre, ce sont des fûts métalliques recyclés.
Ça, je peux l'utiliser pour faire chauffer mes aliments ?
Pas encore. Maintenant, nous allons le broyer et puis le compacter. On va broyer, on va obtenir une poudre qu'on va mélanger avec du lia pour obtenir une pâte.
À la fin du processus, on obtient un bloc de charbon reconstitué qui a tout du makala traditionnel. Même couleur, même efficacité, mais sans abattre aucun arbre.
Ça c'est déjà une alternative. Ça remplace le charbon de bois. Et là, plus besoin d'aller déforester. Parce que la forêt congolaise, c'est le poumon de la planète. C'est le premier poumon. Donc, s'il n'est pas là, il n'y a pas la vie sur Terre. Il n'y a que l'Amazonie au Brésil et le bassin du Congo qui séquestrent le carbone et produisent de l'oxygène. Même pour vous en Europe, parce qu'en Europe, vous produisez trop de carbone, trop de CO2 que la forêt absorbe. Et nous donne de l'oxygène que nous avons tous besoin en Afrique comme en Europe pour vivre. Mais cette forêt, elle n'est pas respectée. Et là, nous sommes sacrifiés.
Mouroula produit entre 20 et 40 tonnes de briquettes par mois. Et chaque jour, sa camionnette sillonne les rues de Bukavu pour faire connaître les atouts du charbon recyclé.
Le sac d'un kilo, c'est 1000 francs congolais. Le sac de 20 kilos à 15 000 francs congolais. Comme ça, maman, tu utilises ce produit moderne, original et de qualité.
Le prix de vente est deux fois moins élevé que celui du makala traditionnel.
C'est du makala recyclé, qui demande juste une petite quantité sur le foyer. Tu le brises en petits morceaux, ensuite tu le mets sur le brasero. Pas une grosse quantité. On te dit, juste avec 20 morceaux de ce genre, tu peux faire cuire les aliments, un repas complet, et faire bouillir de l'eau pour le thermos. Une petite quantité, prenez quelques morceaux, mettez-les sur votre brasero bien aéré.
Le vendeur vante aussi l'aspect écologique de la briquette.
Ces briquettes doivent devenir votre combustible habituel, à la place du bois de chauffe, du pétrole et de l'essence. Parce que ce n'est pas bon pour la santé avec les fumées toxiques.
Guy Lagage, dans votre livre Le cri de la forêt, publié aux éditions du Rocher, vous mettez aussi en avant ces alternatives. Il y en a d'autres d'ailleurs dont vous parlez. On entend, moi ce qui m'a beaucoup touchée dans ce témoignage, c'est qu'il n'y a pas de rancœur. C'est vraiment, on se débrouille, on trouve des solutions. Par exemple, la briquette du Kivu, l'État est absent, donc on trouve les solutions par soi-même. Et on entend ce jeune homme qui dit, voilà, vous émettez trop de carbone en Europe, en Occident. Alors nous, on se débrouille pour ne pas faire comme vous, finalement.
Oui, enfin, c'est prendre conscience, en réalité, en quoi on est lié. Et en effet, il n'y a pas de rancœur. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une ingéniosité et une dynamique et une volonté, une énergie dans la jeunesse congolaise. Là, il y a Mouroula Zigabé qu'on vient d'entendre, il y a Cédric Muliri qui, lui, que j'ai suivi également, justement avec les Batois, vous en avez d'autres. La seule chose, c'est qu'ils sont seuls. Donc, si vous voulez, quand vous essayez de créer des entreprises, ce sont des entreprises. Parce que les briquettes du Kivu, globalement, c'est un produit qui est vendu sur le marché, on entendait, mais il n'y a pas d'investisseurs qui viennent les aider, ni de l'État, ni de l'entrepreneuriat privé à l'intérieur de la RDC, ni même à l'extérieur. Et donc, ce qui est certain, c'est que, hélas, c'est assez limité. Et sans un flux financier, sans une aide, sans des soutiens, sans un développement, un accompagnement comme nos entreprises elles-mêmes peuvent être accompagnées sur notre territoire, les perspectives restent limitées. Et pour autant, vous avez une jeunesse extrêmement éduquée, avec des esprits qui sont à la fois bien construits et avec une vision très claire et une stratégie pour faire face, notamment au fléau du Makala, et qui reste, encore une fois, il y a une forme de plafond de verre du fait de cette espèce d'isolement.
Alors, l'Agence internationale de l'énergie va faire une grande réunion à Paris en mai prochain, là, pour, sur cette thématique de la cuisson en Afrique. Peut-être qu'il y a des soutiens qui vont émerger. En tout cas, on peut l'espérer. Mais ce qui est aussi, vous en parlez dans votre livre, assez perturbant, en tout cas, enfin, c'est toujours la confrontation que l'on a envie de faire, c'est le décalage entre cette ingéniosité des gens au quotidien et puis le décalage avec le discours de l'État congolais.
Oui, mais parce que en gros, il y a une forme de double discours. Vous avez d'un côté un État congolais qui dit qu'il est prêt à faire ses meilleurs efforts pour construire, développer une économie durable. Et puis, on voit aussi que ce même gouvernement ouvre ses blocs pétroliers et les met aux enchères, 27 blocs pétroliers, dans les tourbières notamment. Il faut savoir que les tourbières sont des zones humides qui stockent du carbone. Ces zones humides, si elles relâchaient le carbone qu'il y avait à l'intérieur de ces zones humides en exploitant le pétrole, les experts expliquent que ça correspondait, écoutez bien, à 3 années d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, il y a un réel risque de catastrophe en cas d'exploitation de ces réserves pétrolières dans ces lieux hautement fragiles en termes environnementaux.
Mais en même temps, la réponse du gouvernement congolais, c'est « nous avons besoin de nous développer et pour cela, nous avons besoin d'argent ».
Vous avez raison, c'est aussi une réalité. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un concours de la communauté internationale, parce que ce qui se passe en RDC, et ça boucle avec ce que vous disiez au début, nous concerne tous. Il ne s'agit pas de se dire « on va encore... » En gros, les plus critiques, on va encore aller aider l'Afrique. Non, on va s'aider nous-mêmes. Donc évidemment, il y a cette réalité-là qui doit être prise en compte, sachant que, si vous voulez, c'est un sujet très complexe, parce que quand vous parlez aux Africains localement, quand vous êtes en reportage, quand vous discutez avec certains d'entre eux, vous dites « Ok, vous nous critiquez par l'absence d'État, vous nous critiquez par la corruption, vous nous critiquez par le double discours » de nos politiques. Et vous avez sans doute raison, d'ailleurs. Mais à l'inverse, qu'en est-il de votre parole? Qu'en est-il de vos actes? Vous venez chez nous pour exploiter vos mines, nos minerais, pour vos batteries, pour vos voitures électriques. Et là, ça ne vous dérange pas, vous, d'aller exploiter, voire peut-être bafouer notre environnement et les forêts dans votre intérêt. Donc, le double discours que vous critiquez à l'égard de nos dirigeants, et vous avez d'ailleurs raison, est-ce que vous ne devriez pas vous-même vous l'appliquer? Parce que sinon, ça va devenir de plus en plus insupportable pour l'Africain, les Africains que nous sommes, d'entendre vos plaidoiries ou vos plaidoyers. On va avoir de plus en plus de mal à vous suivre, parce que vous-même, vous êtes bourré de contradictions. Donc c'est sûr que quand on traite de ces sujets-là, il y a une complexité qui nécessite effectivement... comment dirais-je, à la fois de comprendre la réalité et des risques, mais en même temps, on ne peut pas simplement se dire « on regarde ça sans y apporter notre concours ».
Merci beaucoup, merci. Guy Lagage, d'être passé dans C'est pas du banc. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Le cri de la forêt, récit au cœur de la menace climatique » et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Demain, nous vous emmènerons en République dominicaine à la découverte de l'agriculture synthropique. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous demain, donc même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.